C'est un certain René Berthelot, dans un livre pionnier d'ailleurs, consacré au pragmatisme en 1911, donc on est en plein dedans, hein, c'est tout nouveau, qui consacre un chapitre dans un livre qui s'appelle « Un romantisme utilitaire », en plusieurs tomes. Il consacre un tome à Nietzsche et Poincaré, et il l'appelle donc un chapitre, le titre d'un des chapitres, et le perspectivisme de Nietzsche. C'est comme ça que le mot est rentré dans notre langage philosophique, par Nietzsche et par sa lecture, donc pragmatiste. Néanmoins, là aussi on est face au même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire le perspectivisme de Nietzsche est loin d'être clair. Pourquoi ? Parce que d'une part, Nietzsche le cite une fois dans son œuvre publiée, donc le mot n'apparaît qu'une seule fois dans l'œuvre publiée, pas dans les fragments posthumes. Et d'autre part, si on fait le compte de toutes les occurrences du lexique de la perspective, alors en allemand, voilà, perspektivisch, tout ça, on arrive à 120 occurrences, ce qui est très peu pour une œuvre publié et fragments posthumes. Donc c'est quelque chose de relativement rare, tardif, rare, ambigu, et jamais théorisé par Nietzsche. Nietzsche ne parle jamais d'une théorie du perspectivisme. Il parle du perspectivisme, d'un perspectivisme, on va voir comment il en parle, mais ce n'est jamais une théorie. Ce n'est pas la volonté de puissance, ce n'est pas la généalogie, ou ce n'est pas les grands thèmes de Nietzsche. Néanmoins, on peut en dégager deux sens principaux. Alors voilà, là c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Je dégage deux sens principaux du perspectivisme dans son rapport avec le concept de monde chez Nietzsche, dont j'en parlerai un petit peu, et du concept, rapport avec le concept de volonté de puissance. Voilà, pour essayer de sortir de cette lecture extrêmement psychologisante, hein, de perspectivisme comme une projection des sujets humains qui voient des âmes partout. Donc, d'une part, Nietzsche, on peut le dire, il pense le monde, alors on pourrait le dire comme ça, première partie, le monde comme perspective. Pour Nietzsche, le monde se donne toujours, le monde, ce qu'on appelle le monde, se donne toujours dans une perspective, c'est-à-dire dans un cadre fini, utilitaire, dans une conscience qui est forcément fausse. C'est-à-dire qu'il y a, c'est ce qu'il dit, une nécessité de l'optique, du perspectif et de l'erreur. Voilà. Toute conscience est perspective, tout rapport au monde est perspective, c'est-à-dire il est faux. Il est erroné parce qu'il répond à des besoins et que on n'a pas besoin de tout voir, on a besoin de voir ce qui nous est nécessaire pour vivre. Il y a donc un état, le perspectivisme désigne chez Nietzsche tout d'abord, un état primordial, vital, natif, qui est même biologique en réalité. Hein, on le verra si j'ai le temps d'en parler un peu, mais c'est tout à fait lié aux évolutions de la science. Hein, il est très intéressé par Darwin, par l'idée qu'il y a une évolution des espèces et que notre appareil intellectuel est le résultat d'une évolution. Il n'est pas un don de Dieu qui nous permettrait de voir l'être en direct, non. On voit les choses, on voit le monde depuis une perspective, pour Nietzsche, ça veut dire que nous sommes déjà, toujours déjà enfermés dedans, hein, et que notre rapport au monde est toujours d'abord faux, toujours d'abord utilitaire et toujours d'abord erroné. C'est donc le perspectivisme, il faudrait le lire comme quand on parle du strabisme ou de l'autisme, c'est-à-dire c'est notre maladie native, c'est notre incapacité native à voir le monde tel qu'il est, parce que ben, on est des animaux, on est des êtres biologiques, organisés, qui ont des besoins, et qui, du coup, voyons le monde en fonction de nos besoins. Et c'est là que vous comprenez peut-être aussi comment Jacob von Weizsäcker va exactement reprendre cette idée-là, mais à partir de la description des mondes animaux. Et bien, Nietzsche parle donc du perspectivisme. Il y a du perspectivisme. Il n'y a pas un perspectivisme théorique qu'on choisit. On ne choisit pas d'avoir du strabisme ou d'être autiste. Il y a du perspectivisme qui est une condition. C'est le point de départ de toute vie. C'est pour ça qu'il dit que c'est le fondement de toute vie. Alors, d'où vient le vocabulaire de la perspective chez Nietzsche? J'ai dit, dans l'unique mention littérale du perspectivisme dans toute l'œuvre publiée, c'est-à-dire le paragraphe 354 du Gai Savoir, qui est extraordinaire, et qui associe perspectivisme et phénoménalisme. Alors, on retombe sur Kant. C'est-à-dire qu'en fait, le perspectivisme est quelque chose que Nietzsche hérite des lecteurs post-kantiens, c'est-à-dire des philosophes très peu connus, du matérialiste Lange, Friedrich Albert Lange, qui écrit « Histoire du matérialisme », de African Spear, qui est ukrainien, je crois, Pensée et réalité, de 77. Enfin, c'est tous les auteurs qui ont formé la pensée de Nietzsche et qui, en fait, si vous voulez, lui font comprendre que la conséquence du kantisme, c'est-à-dire de l'esthétique transcendantale, nous voyons des objets que dans le cadre du temps, de l'espace et de nos catégories, la conséquence de ça, si on l'associe à l'évolutionnisme darwinien, bah, c'est que nous ne pouvons voir que ce qui nous est utile à notre espèce, à notre vie, à notre survie, et que nous ne voyons jamais le monde en soi. Voilà, c'est un peu comme ça que Nietzsche récupère le perspectivisme. Le langage perspectif, exactement, il le récupère auprès d'un philosophe qui n'est même pas traduit en français, je crois, qui s'appelle Gustave Teichmüller, qui écrit « Le monde réel et le monde apparent » et qui utilise justement la déformation perspective, c'est-à-dire l'idée qu'on construit le monde à partir d'un point de vue arbitraire, pour justement critiquer la distance entre monde réel et monde apparent, pour faire de la métaphysique assez classique. Et là, Nietzsche, ça l'agace beaucoup, parce que comme vous le savez sans doute, Nietzsche déteste l'idée de monde vrai. Le monde vrai est une fable, et j'en reparlerai. Donc il reprend un peu agacé ce mot de la perspective pour dire « il n'y a que de la perspective, il n'y a pas de monde réel derrière ». Le monde réel qui est derrière, on ne peut pas le connaître. C'est l'impossibilité d'accéder à l'en-soi. Donc ce perspectivisme natif, qui n'est pas un choix théorique, encore une fois, c'est un état, une condition, est une des conséquences implacables, depuis Kant, si vous voulez, de la reconnaissance de notre finitude. Notre intuition est finie, notre rapport au monde est fini, déterminé par des besoins, par des catégories, par un schématisme qui répond à une nécessité vitale et organique. Ouh là là. Ça a plus du tout. Donc, je vais aller très vite, mais je vais essayer d'être clair. C'est donc une condition grégaire. Voilà. Il n'y a de voir qu'en perspective, de connaissance qu'en perspective. C'est notre statut, si vous voulez, d'animal, d'animalité, de bestialité. Voilà. Nous ne voyons le monde qu'enfermé dans des fictions, des croyances, des besoins, et nous n'avons jamais accès au monde tel qu'il est. C'est ça le point de départ du perspectivisme pour Nietzsche. Et donc on comprend l'image, hein, puisque le tableau en perspective, qu'est-ce que c'est ? C'est le calcul, en quelque sorte, de la taille des objets en fonction, d'une part, du cône visuel, c'est-à-dire du champ que mathématiquement on va déterminer, et qui va décider de la taille des objets en fonction de quoi ? De ce qu'on appelle le point de fuite. D'accord ? Donc on a l'illusion de la profondeur par la diminution ou l'augmentation de la taille des objets. Et le point de fuite, son origine, c'est l'œil du spectateur. Donc on voit bien qu'on voit le monde en perspective comme ça. C'est-à-dire nous voyons le monde comme représentation qui est un monde faux. Seulement, on pourrait s'arrêter là et dire voilà, le perspectivisme, c'est du relativisme, c'est le postmodernisme, c'est pas bien, quoi. Sauf que Nietzsche ne dit pas ça. Il dit que l'objectivité telle qu'on la comprend ordinairement est perspective. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'objectivité, la relation sujet-objet, c'est le résultat de notre rapport utilitaire au réel. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on pourrait appeler l'objectivité faible. C'est-à-dire que voilà, on vit dans un monde ordinaire avec des objets, bon, et tout ça pour Nietzsche, ce n'est que le résultat de notre condition. Ce n'est pas le monde tel qu'il est. Et il y a donc chez lui un deuxième sens du perspectivisme, non plus le monde comme perspective, le monde tel qu'on le voit par rapport à nos besoins, mais le monde comme l'infini des perspectives. Là, ça change tout, puisque ce n'est plus un état natif, c'est un effort philosophique, c'est un choix. C'est-à-dire qu'on accepte la condition native, vitale du perspectivisme, notre maladie, si vous voulez, en quelque sorte, enfin, notre condition étriquée, finie, et on va faire un effort philosophique pour en sortir. Et c'est là que ça devient plus compliqué. On pourrait parler, chez Nietzsche, puisqu'il l'utilise dans ce sens-là, d'une objectivité forte. Et là, j'utilise le terme de « strong objectivity » que utilise Sarah Harding, par exemple, dans les études féministes, pour essayer de dépasser justement ce caractère étriqué, fini, limité de la perspective. En disant, voilà, il faut intégrer le plus de perspectives possible pour construire une vraie, une forte objectivité qui ne soit pas que la parole des dominants, si vous voulez. Là, on le retrouve dans les études féministes, ou Donna Haraway qui parle de connaissance située. C'est un peu la même chose. Bien que, bon, Nietzsche n'est pas féministe. Ça, c'est un autre détail. C'est-à-dire un effort qui implique la possibilité, donc pour Nietzsche, le perspectivisme, c'est cet effort, la possibilité de penser le monde comme l'infini des perspectives. Il y a des êtres qui voient tous en perspective, et il faut faire l'effort pour penser le monde comme l'infini des perspectives. Et ici, la perspective prend un autre sens, c'est-à-dire, ça signifie des interprétations. Donc ce second sens du perspectivisme, on pourrait l'appeler, avec Dorian Astor, un commentateur récent, de méta-perspectivisme. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de sortir de la perspective, puisque de toute façon on ne peut pas, c'est notre condition native, mais c'est de faire tous les efforts du monde et philosophiquement pensables pour l'élargir, pour, je cite Nietzsche, sonder le monde par le plus Dieu possible. Voilà, c'est-à-dire essayer de multiplier au maximum les conditions, les interprétations, etc. Faire varier. Donc la perspective devient un instrument de variation, d'élargissement, d'approfondissement. On essaye de faire éclater notre perspectivisme natif. Ce qui ne signifie pas, encore une fois, qu'on y renonce, dans le sens où on n'atteindra jamais l'en-soi. Comme disait Montaigne, on ne communique pas avec l'être. Nous n'avons pas de communication à l'être. Et D'ailleurs, il dit j'ose parler de moi, mais parce que je ne peux parler que de moi. Et c'est un peu ça, la situation de l'humanité pour Nietzsche. Nous n'avons pas de communication à l'être, nous ne pouvons parler que de nous-mêmes. Mais encore faut-il bien en parler. C'est-à-dire en parler de la manière la plus, si vous voulez, perspectiviste possible. Donc le perspectivisme, dans ce deuxième sens, désigne à la fois l'effort de s'élever, si vous voulez, ou de faire varier le plus possible les interprétations, hein, trop humaines auxquelles nous sommes habitués. Qu'est-ce que c'est pour Nietzsche ? Ben, c'est la morale, la religion, la métaphysique, la politique, enfin, tout ce qui a tendance à constituer notre ordinaire, donc nos rapports aux autres, nos rapports à autrui, aux objets, etc. Donc il faut faire varier tout ça. Et encore une fois, ne pas se tromper, quand on dit faire varier les interprétations, ce n'est pas faire varier les interprétations d'un sujet, c'est considérer les sujets comme des interprétations. C'est là qu'on bascule complètement, c'est un point de discussion chez les Nietzschéens, mais enfin on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est que pour Nietzsche, les êtres sont des interprétations. Nous sommes des perspectives qui interprétons en permanence. Notre existence même est interprétative, si j'ose dire. Et c'est ça la conséquence du perspectivisme dans le deuxième sens, c'est que les sujets, les centres, si vous voulez, de perspective, sont des interprétations du monde. C'est-à-dire que nous sommes des multiplications du monde lui-même. Et nous ne multiplions pas le monde comme ça, tout seul dans notre bureau, pour nous faire plaisir. Nous sommes le monde qui se multiplie en permanence et qui s'interprète, et qui s'exprime. C'est pour ça que, je cite la Pierre Montebello, qui a une formule très claire, il dit « Chaque foyer de force est une perspective, perspectivisme vital, natif, mais la loi des perspectives, c'est-à-dire ce qui produit les perspectives, c'est ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance. » Puisque pour Nietzsche, et là, c'est un point, je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'est un point d'interprétation qui me paraît très important pour bien comprendre Nietzsche et pas en faire une espèce de, comment dire, justement d'interprète textuel. Pour Nietzsche, les interprétations ne sont pas des jeux littéraires, ce sont des êtres vivants, des forces, ce sont des forces de domination, de prédation, de possession, et non pas, si vous voulez, des jeux de l'esprit, quoi. Et on a un peu tendance aujourd'hui, certains auteurs en tout cas, commentateurs, à lire Nietzsche comme ça. C'est-à-dire, non, mais Nietzsche nous dit qu'il faut faire un effort pour spéculer, en quelque sorte, pour le plaisir, on va imaginer le monde d'un tel, on va essayer... Non, Nietzsche dit que les êtres sont des interprétations, qu'il y a un conflit irrémédiable des interprétations, et que interpréter, ça peut vouloir dire dominer. Et que les interprétations sont en conflit. Alors, c'est là qu'on en vient à deux sens du perspectivisme historiquement. Je vais bientôt m'arrêter. Ouh là là. Un perspectivisme qui serait, je termine, hein, un perspectivisme qui serait dans le style leibnizien, qui serait justement l'idée qu'il y a quelque part un langage qui va faire qu'on va arrêter de faire la guerre. On va arrêter de vouloir convertir les infidèles, on va arrêter de vouloir imposer. On va trouver un langage commun qui soit en communication avec l'être ou avec Dieu, si vous voulez, qui va apaiser le conflit des perspectives. Puisque Leibniz reconnaît aussi qu'il y a cette multiplication des substances qui sont autant de mondes. Eh bien, chez Nietzsche, il n'y a pas cette dimension œcuménique, hein, et au sens littéral, hein, puisque Leibniz a œuvré pour la réunion des églises en pensant qu'il y avait une vérité supérieure à chacune. Chez Nietzsche, il n'y a plus, si vous voulez, c'est Dieu est mort. Donc il n'y a plus de langage, il n'y a plus d'être avec qui on peut avoir une relation, une communication pour apaiser, pour pacifier. Il n'y a qu'un état de guerre permanent, d'interprétation, qui s'entre-dévore, qui se domine, qui s'entre-détruise. Et celle qui gagne le conflit, ben, c'est celle qui arrive à ne plus se faire passer pour une interprétation. Celle qui arrive à se donner comme le vrai et le réel en soi. Et là, vous pouvez retrouver des formes, l'État se donne comme une interprétation de cet ordre, Dieu se donne comme une interprétation de cet ordre, c'est-à-dire voilà, la morale, du moins chez Kant, etc. Donc il y aurait d'un côté ce que j'appellerais un perspectivisme dogmatique, c'est-à-dire l'idée que, d'accord, on est dans des perspectives, mais on peut en sortir parce que la science, parce que la métaphysique ou la politique va nous permettre de trouver un langage commun qui va apaiser le conflit. Ça, c'est le perspectivisme, disons, œcuménique. Et il y a le perspectivisme proprement, véritablement nietzschéen, qui est un perspectivisme polémologique, qui consiste à dire... Il y a un état de guerre permanent entre les perspectives. Interpréter, c'est s'imposer, c'est dominer, c'est imposer son point de vue, dévorer le point de vue de l'autre. Et là, vous reconnaissez bien entendu la matrice théorique d'Edward Vives et Castro, quelque part. Hein, on intègre, on ingère, on dévore, on possède le point de vue des autres. Les hommes dévorent le point de vue des femmes, les êtres humains des non-humains, etc., etc. Donc on a un perspectivisme de prédation, qui ne peut plus espérer sortir de l'état de guerre. C'est ça que nous dit Nietzsche. On est obligé, en quelque sorte, d'accepter cet état de guerre et de faire en sorte, par contre, de multiplier le plus possible les perspectives pour ne pas se laisser piéger par la perspective des dominants, qui veulent toujours que leur perspective n'en soit plus une. Parce que ça voudrait dire que ce seraient des vérités en soi, indiscutables, inattaquables. Donc je termine, excusez, j'ai un peu du mal à conclure, c'est que j'avais un dernier truc très important à dire. Je termine, et après, comme ça, on pourra peut-être passer aux questions, si vous en avez. Ça veut dire que pour Nietzsche, le perspectivisme a un sens très particulier, au-delà de cet aspect polémique, polémologique. Ça veut dire que pour penser, faire monde, penser, c'est accepter la nécessité d'une libre fabulation de l'être. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de cette prison, si vous voulez, perspective, dans laquelle nos consciences, nos êtres, nos organismes sont enfermés, mais on peut du moins faire l'effort pour essayer d'élargir les murs, si vous voulez. Et cet effort pour élargir les murs, pour sortir, peut-être pas sortir des murs, mais au moins les agrandir, c'est ce qu'il appelle la libre fabulation de l'être, qui n'est pas un choix personnel, qui est précisément ce que nous sommes. C'est-à-dire que penser implique la nécessité de fabuler. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de prétention, de la conséquence principale, là j'ai dit les fondements, maintenant c'est la conséquence, c'est qu'on ne peut plus assumer une prétention à l'universalité a priori. Il n'y a plus aucune perspective, aucune interprétation qui puisse prétendre être universelle et a priori. Il n'y a que des fabulations qui gagnent, qui perdent, qui sont majoritaires, qui sont dominantes, qui sont dominées, qui sont minoritaires. Mais la philosophie doit assumer, pour Nietzsche, cette libre production d'un récit. Et là, on retrouve ce que disait tout à l'heure Julien sur le sens de la fabulation chez Gilles Deleuze. Mais le mot fabulation est chez Nietzsche, chez Bergson aussi. Deleuze, je pense plutôt à Bergson, mais chez Nietzsche, on le retrouve dans Vérité et mensonge au sens extramoral. Il dit entre sujet et objet, il ne peut pas y avoir de corrélation ontologique. Il y a forcément, à un moment donné, une libre fabulation. Hein, c'est ce qu'il dit, une libre fabulation, ce qu'il appelle une force médiatrice, qui nous fait croire que notre fabulation n'en est pas une, et qui nous permet de vivre. Et ce concept est déjà présent aussi chez le petit auteur matérialiste Friedrich Albert Lange, qui parle, lui, de la nécessité d'une poésie conceptuelle, d'une Begriffsdichtung. C'est-à-dire que philosopher, c'est en quelque sorte faire des poèmes conceptuels qui ne sont pas des jeux de l'esprit gratuits, qui sont des nécessités vitales, pragmatiques, dans la mesure où la fabulation engendre une distribution des âmes, des êtres, du monde, qui est pour nous nécessaire. Vouloir cesser de fabuler, c'est s'autodétruire pour les êtres humains. Je finis. Eh bien, c'est fini. Donc c'est à partir de cette fabulation que moi je propose, dans mon travail de thèse, de réinterpréter toute l'histoire de la perspective, précisément la perspective qu'on connaît bien, la perspective occidentale, linéaire, comme la manière dont l'être s'est fabulé à structurer notre pensée, notre conception, si vous voulez, du monde, ce que Descola appelle le naturalisme, en essayant justement de le replacer dans une pluralité perspectiviste de fabulation possible. Voilà, donc je suis désolé, j'ai un peu débordé de 5 minutes. Voilà. Mais j'espère que ce n'était pas trop rapide, mais c'est que je me suis laissé, enfin, forcément, c'est systématique. Voilà, merci.
Merci Mathias. D'abord, je vais te... C'est pas de poser une question, hein. Je vais faire une espèce de dessin. Donc imagine que d'un côté, on a Leibniz qui dit que le perspectivisme, il est dans les corps. Donc ça, c'est aussi une épigraphe que Viver de Castro utilise. D'autre côté, on a Donna Haraway dans les Manifestes Cyborg qui dit que les corps, il ne faut pas que les corps terminent dans la peau. Et aussi entre eux, on peut perspectiver quelque chose aussi parmi les études féministes qui ont fait une espèce aussi des révolutions parmi des questions épistémologiques, etc. Mais qu'est-ce que tu penses quand ça arrive, quand cette Donna Haraway d'un corps qui n'arrête pas dans une peau, qui ne finit pas dans une peau, rencontre ces Leibniz qui s'est utilisé pour Viver du Castro, qui dit que le perspectivisme est dans les corps.